du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Quel plaisir de se retrouver pendant l'été avec des températures, et profitez-en, qui sont agréables, puisque Météo France, malheureusement, nous annonce une période caniculaire d'ici quelques jours, d'ici mercredi, avec des températures qui seront très chaudes. Donc profitez de ce petit moment de répit. Dans quelques instants, c'est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes que nous allons retrouver, où on en parlera de paix. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, lieu de paix, bien sûr, par excellence, c'est ce qu'il nous dira au micro de David Torchala. Et puis nous irons découvrir un livre écrit par quelqu'un qui est amoureux de Lourdes. Il a passé 40 ans à venir chaque année à l'OCH, à l'Office chrétien des personnes handicapées. Il a écrit un livre, un recueil sur ce qu'il a appris à Lourdes et qui lui a servi dans sa carrière professionnelle. Vous découvrirez cet auteur d'ici quelques instants. Et puis c'est un artiste que nous allons recevoir, Philippe Pujot, qui sera l'invité de Mathias Terrier dans le magazine De Passage à Lourdes. C'est lui qui a réalisé les fresques de l'église paroissiale de Lourdes qui a été restaurée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. On découvrira tout ça, bien sûr, si vous faites le grand plaisir de rester à notre compagnie. Mais pour l'heure, on retrouve le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le Père Michel Dauban.
Présence à l'Albinque, 92.5.
Lorsque le pape Léon XIV s'est présenté aux yeux du monde, il y a un an, au balcon de la basilique Saint-Pierre, il a saisi le monde entier en ouvrant son pontificat et en disant « La paix soit avec vous ». Des mots simples, des mots forts, ce sont les mots du Christ ressuscité lui-même. Une parole qui résonne profondément ici à Lourdes, où depuis les apparitions, il y a la prière pour la paix n'a jamais cessé. Terre de consolation, lieu de réconciliation, Lourdes continue aujourd'hui d'accueillir les pèlerins du monde entier avec cette même espérance, croire que la paix est possible et qu'elle commence certainement dans le cœur de chacun. Lourdes et la paix, voilà le thème que nous abordons aujourd'hui avec vous, Père Michel Dauban. Bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire et je crois ne pas me tromper en disant que depuis que vous êtes recteur ici au sanctuaire, vous n'avez pas cessé de dire que Lourdes est fondamentalement un lieu de paix. Pourquoi ?
J'insiste beaucoup sur cette dimension qui me semble à ce point fondamentale pour le monde d'une manière générale avec l'actualité que nous connaissons, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous, et en particulier pour les pèlerins qui viennent. Tous les pèlerins qui viennent ont des requêtes diverses et variées, y compris physiques, avec les malades et les personnes en situation de handicap. Tous ne sont pas guéris physiquement, mais je crois pouvoir dire que tous repartent avec une réelle paix, une profonde paix dans le cœur. Et ça, c'est le premier élément qui me semble absolument fondamental. C'est mieux vivre ce que l'on est amené à vivre dans les conditions présentes qui ne sont pas toujours spécialement faciles. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est bien évidemment œuvrer pour la paix, c'est prier pour la paix. Un certain nombre de manifestations, de pèlerinages dans le sanctuaire en attestent. Dans quelques jours, il va y avoir le pèlerinage militaire international, le pèlerinage pour les les anciens combattants. On vient pour évoquer la paix, pour se rassembler, pour vivre une fraternité qui transcende, y compris les différentes armées, les différents combats à travers le monde. Nous allons fêter aussi dans quelques jours le 80e anniversaire du pèlerinage du retour en 1946. Pax Christi, ce mouvement qui a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, a une présence physique particulière ici dans le sanctuaire. Bref, on essaye vraiment de décliner, ça me semble fondamental, cette cause de la paix. La Vierge n'a jamais voulu la guerre, c'est évident.
Mais est-ce que lorsque on entend évidemment ces phrases du Christ à la messe, que la paix soit avec vous, est-ce que la paix du Christ est la même que la paix des hommes?
Non. Non, non. La paix du Christ est plus profonde que la paix des hommes. Nous avons entendu dans l'Évangile récemment, je vous laisse ma paix et ce n'est pas la paix à la manière du monde. On l'entend dans chaque Eucharistie également. La paix du Christ ressuscité, comme vous venez de l'évoquer, elle est profonde. Le pape Léon XIV, le jour de son élection, vous venez de l'évoquer, a spécifié cette formule qui est restée dans les esprits, en tout cas dans le mien, la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix qui va bien au-delà de l'emploi des armes et qui vient toucher le fond des cœurs. Le Christ veut toucher le fond des cœurs, encore faut-il qu'il se laisse ouvrir, ce qui n'est pas forcément toujours très très facile, mais il y a des paix qui sont factices, il y a des paix qui peuvent être formelles, qui peuvent être plus ou moins hypocrites, je ne vais pas faire de référence à l'actualité internationale, il y a des conflits qui se concluent par une fausse paix, un traité de paix, on en a dans l'histoire, hein, et de fait, quelques années plus tard, un conflit éclate à nouveau. Bref, la paix que le Christ ressuscité est beaucoup plus profonde que cette paix des hommes, qui est déjà une première étape, mais qui, bien souvent, de fait, hélas, on le constate, n'est pas suffisante.
Vous l'avez dit, quand on est pèlerin, qu'on vient à la grotte, on vient chercher la paix intérieure. Est-ce que on vient aussi prier pour la paix dans le monde, à l'heure vraiment des conflits au Proche-Orient, en Ukraine? Comment ça se formalise?
Alors de fait, récemment, nous avons vécu le pèlerinage avec l'Ordre de Malte et avec les différents temps de prière à la grotte. Il y a eu un chapelet en arabe où la délégation du Liban était particulièrement présente. Il se trouve que le samedi, il y a également un chapelet animé par nos frères catholiques ukrainiens. Donc, de fait, voilà, dès que une initiative de ce genre-là se manifeste, je crois qu'il est de notre devoir de l'honorer, de faire en sorte qu'elle puisse se concrétiser. Et puis, n'oublions pas aussi que tous les soirs, à la fin de la procession mariale au flambeau, il y a d'une part ces intentions de prière récoltées dans la journée qui sont présentées par l'évêque qui préside à la Vierge Marie, et puis cette prière à Marie, reine de la paix, tous les soirs. Je crois que dans ce silence qui marque la fin de la procession mariale, avec ses flambeaux allumés, il y a un instant qui a une densité que j'ose qualifier de rare à ce moment-là. Et de fait, oui, nous prions pour la paix et Marie entend cette cause et aide chacun à la vivre et à être toujours plus artisan de justice et de paix.
Vous souhaitez que le sanctuaire continue évidemment cet élan de prière et également s'inscrire dans les pas des fondateurs aussi du sanctuaire. Vous avez évoqué les 80 ans du pèlerinage du retour 1946, à peine un an après la fin de la guerre. Que s'est-il passé à ce moment-là, si on fait une petite lecture historique, et que va-t-il se passer pour célébrer ces 80 ans?
Alors 1946, c'est ce premier pèlerinage dit du retour avec tous les soldats, enfin tous ceux qui ont œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont rentrés évidemment vivants. Il y a ceux qui sont décédés et de fait ces personnes sont venues. On parle de 100 000 pèlerins début septembre 46 pour honorer cette cause de la paix et se rassembler pour avancer ensemble dans une fraternité nouvelle. Et il se trouve qu'effectivement cette année, donc nous allons célébrer le 80e anniversaire, il y a dans l'enceinte du sanctuaire, non loin, sur le mur d'enceinte, une magnifique exposition avec des photos qui retracent cet événement. Et régulièrement, par dizaines, alors pas tous les 10 ans, mais cet anniversaire a été fêté. Et cette année, nous souhaitons le célébrer particulièrement. Il y a encore une réunion qui est prévue dans mon agenda dans quelques jours sur ce sujet. Et ça me semble vraiment très, très important. Donc c'est Monseigneur Rodin qui est à l'initiative du Secours catholique, qui a œuvré, qui a tout fait pour que ce pèlerinage se réalise. Il y a cette croix de ce pèlerinage de 46 qui est à la cité Saint-Pierre. Il y a le caveau de Monseigneur Rodin, devant lequel les pèlerins, cette année, seront invités à aller se recueillir. Oui, il y a une cause que l'on veut vraiment honorer, entre autres événements, par rapport à cette date fondatrice de 46.
Monseigneur Rodin, c'est le fondateur du Secours catholique. La cité Saint-Pierre, vous l'avez évoqué, est toute proche du sanctuaire. Quel est le lien avec le sanctuaire au quotidien et la cité Saint-Pierre ?
Le lien, il est important avec les pèlerins qui vont loger, qui sont parfois bénévoles, parce que là aussi, la cité Saint-Pierre fonctionne largement avec du bénévolat. Et donc, ces personnes viennent dans le sanctuaire et vivent, ont une vie communautaire, une vie fraternelle sur les hauteurs du sanctuaire, dans un lieu magnifique, mais sont pleinement engagés aussi pour se rendre auprès de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle pour la prier. Et ce sont des beaux liens qui se vivent entre les uns et les autres, parce que c'est aussi la charité, c'est aussi la fraternité qui concrètement se vit là-haut comme elle se vit en bas. Je pense qu'il faut dire aussi dans ce contexte immédiat de l'après-guerre, vous avez évoqué Monseigneur Rodin, je pense qu'il faut aussi évoquer Monseigneur Théas qui a été évêque de Montauban avant de devenir évêque de Tarbes-Lourdes de 47, donc aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 70. Il a été à l'initiative du mouvement Pax Christi, dont d'ailleurs il a été le président jusqu'à 1965. Et ce mouvement Pax Christi, qui est un mouvement œcuménique pour la paix, a un local, a une permanente, participe à la pastorale du sanctuaire dans l'espace Sainte-Bernadette. Et de fait, a mis en place cette année une marche aux sources de la paix. Donc là aussi, à travers quelques étapes essentielles dans le sanctuaire, il s'agit de permettre à tous ceux qui veulent œuvrer, penser, prier, réfléchir à la paix, de se retrouver, de resserrer les liens et de continuer à avancer. Monseigneur Théas avait créé une messe hebdomadaire pour la paix. Donc je crois que nous inscrivons dans la continuité, j'allais dire, de ces pères fondateurs ici même dans le sanctuaire.
Vous avez un souhait, c'est de mettre mieux à l'honneur cette fête du 11 novembre, cet armistice chaque année à Lourdes. Vous aviez déjà invité les responsables de l'église ukrainienne. Pourquoi cette date du 11 novembre serait une date de prière spéciale pour la paix, encore une fois?
Nous le savons tous, le 11 novembre est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et de fait, outre le fait, pour le recteur que je suis, de me rendre au monument mort à l'invitation de monsieur le maire de la ville de Lourdes, ce qui est fondamental, il me semble important aussi de pouvoir concrétiser, marquer cette journée qui, dans certains esprits, du reste, disparaît. Peut-être que certains, aujourd'hui, vivent une journée fériée, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi elle est fériée. On pourrait le dire peut-être aussi du 8 mai, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble essentiel, oui, de pouvoir avoir avec tel ou tel invité, œuvrer pour telle ou telle cause, en tout cas, marquer cette journée comme étant particulièrement un temps de prière, de réflexion pour la paix.
Pour terminer, le pape Léon XIV rappelle que la prière est la grande force de réconciliation des peuples. Lourdes aussi est une terre de réconciliation. Ma dernière question, est-ce que vous pensez que prier véritablement change le monde ?
Je pense que prier change les cœurs. Et de fait, si les cœurs ne se mobilisent pas pour changer le monde, je ne vois pas très bien comment cela va-t-il se faire. Oui, je pense que la prière est absolument fondamentale, et une fois de plus, elle marque nos journées, et de fait, lorsque chacun repart de Lourdes, qu'il soit de Tarbes ou qu'il soit d'un pays éloigné, il est invité à être artisan de justice, de charité, de paix, là où il est, dans la mesure où il a déjà été concrètement dans le sanctuaire de Lourdes.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie, avec plaisir.
À une prochaine fois, merci.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
C'est un ami de Lourdes que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Pierre Guilbeault.
Bonjour.
Merci d'être passé par nos studios. Vous avez l'habitude de venir nous faire un petit coucou chaque année. Et chaque année, ça fait beaucoup d'années, puisque ça fait 40 ans aujourd'hui que, enfin cette année particulièrement, que vous êtes bénévole à l'accueil des personnes handicapées à l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
C'est tout à fait ça.
J'ai dans les mains un livre que vous avez écrit. On va parler un peu de ce livre, mais on va parler un peu de cette grande aventure au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Pierre Guilbeault, vous êtes un amoureux de Lourdes. On s'est rencontrés effectivement il y a pas mal d'années. Vous étiez venu à la radio et vous aviez ce projet de faire ce qu'on m'avait dit, un vidéo-son. C'est-à-dire que vous vouliez mettre une personne, entre parenthèses, normale, en situation de cécité visuelle. Voilà, on vous met un masque, on ne voit plus, et on entend des bruits, des choses, et on doit se repérer. Et là, c'était vraiment pour mettre la personne en réalité d'une personne malvoyante. C'était ça un peu
le but. C'est tout à fait ça, oui. On s'adresse plutôt à des groupes, mais si une personne demande de faire un petit parcours en... guidé, je suis toujours disponible, et voilà, on a des belles sensations pour se repérer et se perdre aussi.
Ouais. Le livre s'appelle « Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour ». Vous êtes un découvreur de trésors. Ouais. Il y a quelqu'un qui aura marqué votre vie, il s'appelle Lionel.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a 40 ans, j'ai un ami, Joël, j'ai une grosse pensée pour lui puisqu'il vient de décéder, qui est le parrain de ma fille, qui était bénévole à l'OCH. Et il y a 40 ans, voilà, mon couple s'est déchiré et j'étais un peu perdu. Quand je dis un peu, voilà, c'était beaucoup. Et Joël me dit, mais pourquoi tu viendrais pas avec moi à l'OCH ? Bof, ouais, bah pourquoi pas, puisque au point où j'en suis. Et puis, je suis arrivé à l'OCH, et puis il y a une personne qui m'a accueilli, qui s'appelle Georgette, qui est sûrement au ciel maintenant, qui m'a accueilli en me disant, est-ce que t'as mangé ? Bah non. Et puis, écoute, j'ai pas grand-chose, j'ai un morceau de pain dur, de pain rassis, pardon, et puis un bout de saucisson, et puis un œuf dur. Vous voyez, 40 ans après, je me rappelle de ce festin qu'elle m'a offert, parce qu'elle me l'a offert avec le cœur. Et le cœur est très important dans l'accueil qu'on peut faire à l'OCH. Et puis l'après-midi, on m'a confié Lionel. Tiens, tu vas t'occuper de Lionel. Alors Lionel, c'est un petit garçon qui n'avait pas la parole, parce qu'il est décédé lui aussi. Et puis, il avait une main complètement tordue, puis dans cette main, il tenait un petit avion jaune avec une hélice, puis avec un doigt de l'autre main, il passait son temps à faire tourner l'hélice. C'est tout ce qu'il faisait. J'étais jeune éducateur, pétri de ma science, j'ai passé l'après-midi à réfléchir. Puis ce soir, je me suis aperçu que j'avais rien trouvé pour entrer en relation avec lui. Et le soir, avant de m'endormir, je fais le point et puis... Mais je dis, mais on a fait pourtant un tas de choses cet après-midi. Il m'avait entraîné, on était à l'époque de l'autre côté du boulevard, entre l'évocation et la mission.
D'accord, oui.
Là où les bâtiments n'existent plus. Et puis, donc il m'avait emmené au bout du terrain, frotter les pieds dans les gravilles. On était revenu manger un gâteau. On était reparti, on était revenu boire un verre d'eau. Et puis je dis, et là je me suis aperçu que moi j'avais réfléchi et lui il était rentré en relation avec lui, avec moi. Moi avec ma science, j'étais handicapé en fait. Et que lui, sa science à lui c'était son cœur. Et il s'est devenu un très très grand ami. Parce que dans les années qu'on suivit, quand je venais à Lourdes, j'allais loger chez les parents. J'ai même eu le privilège de faire sa toilette. Enfin, voilà, c'est un grand, grand, grand ami. Et voilà. Bon.
Et vous m'avez dit que, en fait, Lionel, avec son handicap, il a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
Ah, complètement. Complètement, parce que...
C'est l'histoire du livre.
C'est l'histoire du livre. C'est tout le long du livre, ce sont que des rencontres de ce genre, très fortes, où notre intelligence est malmenée. Et moi, j'appelle ça maintenant les cadeaux de Marie. À chaque fois, je finis mon séjour. Et les cadeaux, il y en a eu. Hier encore, j'ai retrouvé un jeune qui s'appelle Moïse. On a passé l'après-midi quasiment ensemble, sans un mot. Mais alors, c'était rempli d'amour. Et sa petite sœur arrivait à chaque instant de lui faire des gros câlins. C'était vraiment touchant, quoi. Enfin, on est bouleversé. Et ça, si on se laisse pas apprivoiser et convertir, faut qu'on change de métier quand on est éducateur, quoi.
Vous êtes à la retraite aujourd'hui ?
Ah oui, ça fait 15 ans.
Voilà, vous êtes donc à la retraite. Vous venez toujours à Lourdes ?
Toujours. Tant que je pourrai, je viens. Tant que mes amis me supporteront, je crois que ça.
Et vous faites ce séjour où vous mettez donc au service, oui, et à l'accueil des personnes, voilà, handicapées, hein, oui, au sanctuaire.
Voilà. Et puis, et puis, ce qui est merveilleux, ce qui est important aussi dans ma philosophie lourdaise, c'est que chaque année, je reviens comme un homme nouveau, comme si j'allais découvrir. Et ce qui est le cas, parce que chaque jour est différent. Et si j'arrivais en disant aux autres, dis donc, ça fait 40 ans que je viens, moi je sais, non, quand j'arrive, je ne sais pas plus que celui qui démarre, quoi. Oh, je connais comment que ça marche.
40 ans, vous n'êtes jamais... il n'y a pas pour vous une routine, c'est pas une contrainte. C'est comment dans quel état d'esprit, vous dites, j'arrive, je suis de nouveau tout neuf, mais il y a 40 ans d'expérience, il y a 40 ans de... Là, en ce moment, il fait chaud, ça ne doit pas être évident. On prend de l'âge, on n'a peut-être pas non plus la même patience, on n'a plus la... Mais vous êtes toujours là.
Oui, oui, oui. Alors, il y a des jours où c'est un peu plus difficile, évidemment, mais je pense qu'on a des grâces, quoi, parce que je pense qu'il y en a une qui est derrière tout ça, quand même. Presque, je dirais deux, parce que j'aime beaucoup Bernadette et l'OCH ressemble beaucoup à Bernadette. Parce qu'on reçoit des gens pour la société qui sont ignorants, qui sont malades. Pour la plupart, ils sont pauvres. Et on reçoit que des Bernadettes.
Oui, et rejetés aussi.
Et rejetés. Ouais. Pour la société, ils sont rien. Et moi, ils m'ont guéri. Hein. Ils ont guéri ma blessure d'amour. Et je pense que derrière tout ça, Dieu m'attendait avec un projet. Je démarre le livre avec un poème que j'avais fait sur les petits chiens là qui vont manger les miettes, et je me considérais un peu comme ça, en disant maintenant que je suis séparé, pour l'Église c'est fichu, quoi. Et puis Dieu, il avait un sacré projet pour moi, quoi. Et il m'a donné l'amour Je demandais de l'amour.
Oui, il vous a donné un autre amour.
Un autre amour qui est encore, mais 100 fois plus fort. Et juste pour répondre à votre question, il y a 35 ans, on m'avait demandé d'écrire un témoignage pour le journal de la Grotte. Alors, vous voyez, on situe le.
Voilà, c'est devenu après Lourdes Magazine.
Voilà. Et je dis, il faut que je trouve un titre. Et tout d'un coup, je suis venu, je dis, je suis tombé malade de Lourdes, mais je ne tiens pas à guérir.
C'est joli, c'est joli. Voilà. Votre livre, vous démarrez toujours les chapitres, d'abord ce sont les chapitres très courts, oui. Par une citation, quelle qu'elle soit.
Oui.
Oui, là je tombe sur la page 101, Kevin, comment se faire comprendre quand on n'a pas de communication verbale. Et là, vous mettez cette citation, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit, Peter Drucker.
Oui.
Et vous démarrez les chapitres par une citation.
Voilà. Alors, Kevin, c'était un petit garçon aveugle, qui était autiste, qui s'auto-mutilait. Et à la fin de ma carrière, j'étais instructeur de locomotion. Alors j'explique très rapidement. C'est mon métier, c'était de permettre aux gens de pouvoir se déplacer en autonomie avec la canne blanche. Voilà. Et Kevin, il a jamais eu de canne blanche parce qu'il pouvait pas. Enfin, mais l'expérience de Lourdes m'a entraîné vers ce genre d'enfant. Je dis, il y a aucune raison qu'on permette à quelqu'un d'intelligent, entre guillemets, de pouvoir traverser des carrefours, des rues, d'être autonome dans la rue, et que ces petits-là soient toujours tributaires de quelqu'un, ne serait-ce que pour aller faire pipi. Et déjà, si j'arrive à leur faire faire le parcours entre leur chambre et les sanitaires, ça sera un exploit. Et j'ai vu, voilà. Et il y a plein d'exemples parce que, eux aussi, ils m'ont surpris. Et Kevin, il me griffait les mains. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était une façon de dire je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Et le jour que j'ai arrêté, que j'ai persuadé aussi la chef de service de dire j'arrête, quand j'allais chercher un autre enfant dans le groupe, il venait me faire des câlins. Vous voyez ? Entre l'agression pour dire t'arrêtes tes bêtises. Et après, merci, je te sers contre moi. C'est beau.
Oui, ce livre donc est tout un témoignage de rencontres que vous avez fait uniquement à l'OCH ou aussi dans votre carrière professionnelle.
Alors, c'est comme je le disais au début, mon expérience de Lourdes a éclairé largement ma pratique professionnelle. Et donc c'est un voyage entre les deux, quoi. Avec des j'ai choisi des personnes qui m'ont
quand
marqué.
Quand on s'occupe comme ça de personnes en situation de handicap toute l'année et que c'est votre profession, on aime bien aussi des fois un peu couper et prendre soin d'un peu de soi. Mais vous décidez en plus de venir à l'OCH et vous mettre encore au service.
Ouais, parce que j'avais besoin de nourrir mon travail. Et à Lourdes, je venais prendre de la nourriture auprès des personnes qu'on peut accueillir.
Quand votre ami vous fait venir il y a 40 ans, il vous dit, tu es en plein chagrin d'amour, ça va pas, viens avec moi à l'OCH. Vous aviez déjà une pratique quelque part religieuse ou vous avez vraiment découvert Lourdes à travers l'invitation de votre ami ou vous aviez quelques quand même connaissances?
Oui, je veux dire que je suis religieux dans les gènes, on va dire.
D'accord.
Voilà. Moi, j'ai découvert Lourdes en 1957. Parce que j'aime bien raconter ça parce que je suis venu en voyage de noces avec mes parents et mes deux frères. Parce que mon papa avait fait la guerre et ils se sont mariés, il était prisonnier, enfin, etc. Donc ils avaient jamais pu faire ce qu'ils voulaient faire, leur voyage de noces à Lourdes. Ils l'ont fait avec leurs trois enfants. Voilà, j'ai découvert Lourdes à ce moment-là. Et
Donc c'est un caractère très, très personnel.
Oui, oui. J'avais un engagement assez fort parce que j'ai dirigé plusieurs chorales d'enfants et voilà. Donc, et entre autres, des chorales qui chantent à l'église, quoi. Donc,
Vous serez vraiment grand. Hymne à l'amour. Il y a marqué un sous-titre découvreur de trésors. C'est 40 ans au service donc des personnes qui est en situation de handicap, particulièrement le visuel. Hein, vous avez...
Moi, pour mon métier, bon, oui. Voilà. Oui.
Mais ici, à Lourdes, vous avez effectivement toutes les cas de figure. Voilà, malgré votre profession, vous venez au service une fois par an. Ouais. Et ça dure depuis 40 ans.
Je suis tombé malade de Lourdes.
Pourquoi ce livre? Pourquoi vous aviez besoin de mettre par écrit pour vos enfants aussi, pour une sorte d'héritage? Au départ, l'idée de faire un livre, il y a plein de gens qui viennent en service qui ne passent pas le cap d'écrire.
Alors, au départ, dans ma petite tête, il faudrait que j'écrive sur ce que j'ai vécu dans ma carrière d'éducateur. Et puis un jour, Martine Diallo, qui est responsable de l'OCH Lourdes, me dit, mais quand est-ce que tu fais un livre sur ton expérience à l'OCH? Et puis, je lui ai dit, tu te moques de moi, quoi. Non, parce que c'était venu parce qu'elle m'a demandé un petit bilan de mon passage une année. Puis je lui ai envoyé, puis elle me dit, c'est super, mais ça mériterait de devenir un livre. Puis je dis, mais je suis pas capable d'écrire un livre. Alors, je pense que l'Esprit Saint a dû m'aider un peu, mais beaucoup. Mais voilà, donc, c'est revenu à ma mémoire le fait que je voulais écrire sur ce que j'avais vécu dans mon métier, et j'en ai fait. Je me suis dit, ben voilà, mais les deux se correspondent et sont complémentaires.
Votre livre, je le rappelle, hein, c'est Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour, découvreur de trésors, de Pierre Guilbault, qui est paru aux éditions Le Lys Bleu.
Il existe aussi en numérique avec possibilité audio.
Audio.
Voilà. Pour les personnes non voyantes.
Voilà. Donc il y a toutes les possibilités. Donc effectivement, sont offertes. C'est un livre qui se lit très facilement. Les chapitres sont courts. Il y a des citations et vous racontez à la fois les rencontres faites ici à Lourdes, et puis également dans votre vie professionnelle. Et Lourdes vous a nourri, vous a changé, vous a modifié, et vous avez adapté aussi, je pense, dans votre vie professionnelle, la façon d'aider les autres.
Complètement. Et dans ma vie tout court aussi.
Et dans votre vie tout court. Et la foi était là, et l'engagement également.
Merci beaucoup.
À l'année prochaine, peut-être.
Ah ben, j'espère.
Au revoir.
Au revoir.
Présence sur le plateau de Lannemezan. 92.2.
Allez, on poursuit tout de suite avec l'information régionale. Et pour cela, nous retrouvons nos étudiants des écoles de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, les incendies continuent de mobiliser les autorités. En Occitanie, les fumées des feux dégradent fortement la qualité de l'air. Une alerte rouge à la pollution a été déclenchée dans plusieurs secteurs de la région. Les autorités recommandent aux personnes les plus fragiles, mais aussi aux enfants et aux personnes âgées, de limiter les activités physiques en extérieur. Les fumées parcourent aussi parfois des centaines de kilomètres. C'est notamment le cas dans l'Aveyron, où la qualité de l'air s'est nettement dégradée. Les autorités sanitaires invitent les habitants à rester vigilants. Les conséquences se font également sentir dans le Lot, où les fumées des incendies de Gironde ont elles aussi entraîné une dégradation de la qualité de l'air. Airbus met à disposition son avion militaire A400M pour les incendies en Gironde. Il a été déployé pour la première fois en conditions réelles. Il vient renforcer les moyens aériens de la sécurité civile. Un seul appareil est engagé pour l'instant. Les essais doivent permettre d'envisager un déploiement plus large à l'avenir. Les fortes chaleurs ont aussi des conséquences sur la biodiversité. En Occitanie, les apiculteurs s'inquiètent pour les abeilles. Entre la sécheresse, le manque de fleurs et la température élevée, les insectes peinent à trouver de quoi se nourrir, ce qui menace la production de miel et la pollinisation. Enfin, sur une note un peu plus positive, les forteresses royales du Languedoc, dont le château de Montségur en Ariège, viennent d'être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance internationale qui devrait renforcer l'attractivité touristique de ces sites historiques.
Et le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure autour de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons maintenant peut-être vous faire entendre ou réentendre deux passages à Lourdes proposés par Mathias Terrier. Nous sommes avec Philippe Bugeaud, le créateur d'œuvres qui ont été installées à l'église paroissiale de Lourdes.
Présence. Deux passages à Lourdes, proposés par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. S'il est un lieu qu'il faut absolument redécouvrir à Lourdes, c'est l'église du Sacré-Cœur. Église du Sacré-Cœur qui a été entièrement réhabilitée, remise à neuf. Et on la découvre sous un jour nouveau, notamment grâce à l'art. Nous avons aujourd'hui comme invité Philippe Pujot. Bonjour Philippe Pujot.
Bonjour.
Vous êtes artiste peintre. J'oserais dire que vous êtes pétri de philosophie, parce que quand on a fait un master de philo, forcément on s'intéresse à la question et à toutes ces questions qui traversent nos vies. Et on va voir combien l'art, tel que vous le déployez dans votre vie, et la philosophie, tout ça est très lié. On vous doit un chemin de croix qui maintenant permet à tous les pèlerins, tous les paroissiens, de méditer le chemin de croix dans cette église du Sacré-Cœur. Et puis un polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur. Et justement, ce polyptyque est totalement dévolu à comprendre et entrer dans ce qu'est la dévotion du Sacré-Cœur. Merci beaucoup de venir vous livrer à nous, vous qui êtes peut-être pas ici en terrain conquis, si je puis me permettre. Vous le disiez vous-même, agnostique. Et on aimerait comprendre comment un artiste comme vous, qui avoue assez simplement, humblement, son agnosticisme, accepte d'entrer dans, finalement, la pédagogie d'une immense dévotion fondamentale qu'est le chemin de croix. Comment vous êtes entré dans cette proposition, Philippe Pujot ?
Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Comment je suis rentré là ? Tout simplement, on est venu me chercher. Mon travail était très centré sur l'idée du spirituel, l'idée du sacré, à travers la raison, mais à travers ce qu'on pourrait appeler, ce que Lévi-Strauss appelle la pensée magique, la pensée du sacré, le respect. Il disait la pensée sauvage et non pas la pensée des sauvages. Respirer une fleur, c'est déjà penser. Cette pensée, elle m'a toujours habité dans mes réflexions philosophiques et dans ma peinture. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis penché vers les grands textes religieux qui m'intéressent au plus haut point, que je respecte, dont je respecte le sens profond, symbolique et aussi la beauté des images qui y sont développées. Je suis un agnostique, effectivement. Alors, c'est moins un aveu qu'un état de fait, hein. Il n'y a pas de... Je veux dire, je suis quelqu'un qui pense que la foi a toute sa place dans la société, que vouloir l'interdire serait une mauvaise chose et qu'il faut une place pour toutes les fois, pour les non-croyants, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ces histoires, ces mythes, et pour ceux qui y croient, ces croyances, nous habitent et nous constituent.
Et nous font vivre.
Absolument.
Donc vous acceptez à la fois d'arriver avec ce que vous êtes, ce bagage d'artiste, de corpus, hein, de pensée, de réflexion, de cheminement, et puis le respect que vous devez à cette dévotion quand même pluriséculaire, enfin, et puis ancrée dans la vie du Christ. C'est juste la foi de l'Église catholique et de la foi des chrétiens qui s'exprime là.
Bien sûr, alors là il y a deux enjeux pour moi quand on me passe des commandes comme celle-ci. La première, c'est de me respecter en tant qu'artiste qui vient représenter quelque chose et tout en étant sincère avec moi-même, et respecter aussi le lieu de culte qui accueille ces œuvres. Les œuvres sont là pour des gens qui ont foi et des gens qui, comme moi, viennent dans les églises parce qu'elles sont des lieux du beau dans le monde, de la géométrie sacrée, d'essayer de faire un vecteur vers le bien par le beau, comme aurait dit Platon. Et donc cet enjeu, c'est d'être également très respectueux de toutes les personnes qui vont se trouver là, regarder et d'essayer de les faire apercevoir d'une nouvelle manière ces histoires qu'on leur raconte et qu'ils viennent chercher depuis longtemps.
14 stations, puisque un chemin de croix se médite, s'accomplit par des stations. On chemine, on avance dans la vie du Christ, progressivement jusqu'à la mort et la résurrection. Vous n'êtes pas parti de ce qu'on dit du chemin de croix ou de ce qu'on a fait au fil des siècles du chemin de croix, mais des textes eux-mêmes, des évangiles.
Absolument. Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce que vous dites et qui m'intéresse beaucoup. Vous dites « on chemine dans un chemin de croix » et c'est très beau. Et ça me fait penser à des poèmes de Verlaine. Quand on lit un poème de Verlaine, c'est comme si on marchait. Si vous relisez un poème de Verlaine, vous avancez strophe par strophe, comme s'il faisait des pas dans le jardin des Tuileries, quand on sait qu'il a fini sa vie converti au catholicisme, très croyant. Je trouve que c'est une image émouvante. Effectivement, ce chemin de croix, j'ai voulu le revoir très sérieusement. Quand on me passe une commande, je repars à la source des textes. Et j'ai découvert, très facilement que les chemins de croix qu'on nous propose dans la plupart des églises ne sont pas des faits que vous allez trouver dans la Bible. Ce sont des chemins de croix qu'on appelle traditionnels. Jésus qui tombe, qui se relève, etc. Ce n'est pas une chose écrite dans les évangiles canoniques. J'ai voulu donc reprendre les évangiles canoniques, j'ai fait 4 colonnes, et j'ai fait minute par minute les actes que l'on peut lire. Alors il y a des petites différences entre Luc, Marc, Jean, Matthieu, mais il y a beaucoup de points communs.
Mais rassurez-nous, ce qu'on voit dans les chemins de croix traditionnels, pour une bonne part, est quand même ancré dans l'évangile. Pas entièrement.
Alors, non. Par exemple, Jésus tombe, se relève, le visage est essuyé, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les évangiles. Enfin, de ce qu'il me semble
mais
bien.
Mais Jésus tombe.
Peut-être, sans doute. En tout cas, c'est une image qu'on a développée comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Jésus à Gethsémani est dans la détresse. C'est Pierre le renie 3 fois, le baiser de Judas, tout ça c'est écrit. La rencontre avec le Sanhédrin et le Caïphe, avec Ponce Pilate, tous ces éléments y sont. Et donc, en les ordonnant petit à petit, je me suis rendu compte qu'un chemin de croix, qu'on appelle donc évangélique, puisqu'il est repris très précisément dans les évangiles, celui-là existe et il a été ratifié par Jean-Paul II en 1991. Il m'a suffi de reprendre donc ces stations-là pour pouvoir développer un chemin de croix qui me semblait très pragmatique et pourtant dans le sacré, dans la foi.
Ce que vous nous dites là, c'est que Saint Jean-Paul II lui-même, en 1991, médite un chemin de croix sur cette démarche que vous vous exposez.
Et par là même, alors je ne connais pas l'histoire exactement, je ne sais pas si c'est lui qui l'a commandé, mais c'est une manière de venir apposer ce chemin de croix, voilà, est conforme. Je viens devant pour montrer de ma présence que je l'approuve.
Vous reprendre les quatre évangiles comme ça, les retravailler, ça ne laisse pas indemne. Forcément, vous-même,
oui,
vous êtes laissé imprégner par ce qui est au cœur de la foi chrétienne.
Bien sûr, absolument. D'abord, j'ai fait un travail un peu d'historien, d'archéologue. J'ai été recherché jusqu'au tissu qui était tissé à l'époque et dans la région pour savoir ce qu'il portait. Et c'est cocasse parce que, à la fin, mon chemin de croix est très évanescent. Contrairement, par exemple, au polyptyque qui, lui, est très réaliste, le chemin de croix est fait de volutes. Mais il me semblait important que je connaisse la vérité de la chose. La croix de Jésus est une croix en taux, puisque les historiens disent que la croix de Jésus n'était pas latine. Elle était en forme de T majuscule, comme ça. Et donc, Jésus ne transporte pas la croix tout au long en croix latine. Il transporte la partie horizontale qu'on appelle un patibulum. Et je trouve ça beau de réhabiliter cette idée-là. Ça s'est fait dans de nombreux chemins de croix. C'était ma manière d'aborder la chose.
Et donc, vous-même, vous avez forcément fait cet effort de penser à tous ceux qui, dorénavant, vont défiler par milliers et millions, dans les années à venir, dans cette Église du Sacré-Cœur, et vont, pour certains, découvrir la vie du Christ, pour d'autres, méditer ce à quoi ils croient. Donc, l'artiste, comment fait-il quand il est dans son atelier pour penser à tous ceux auxquels il va s'adresser ?
Eh bien, d'abord, c'est toujours de la même manière. Moi, le spectateur, c'est pas quelqu'un que j'écarte de mon processus de création. Au contraire, je pense à lui. Je veux pas faire une œuvre trop élitiste pour l'éloigner, même si je ne fais pas mon œuvre en fonction de lui. Je pense que tout le monde doit avoir accès à une... Pour moi, une grande chose, c'est une chose que tout le monde peut comprendre dans divers degrés de lecture. Et donc, quand je vois toutes les iconographies du Christ que l'on peut trouver, même par exemple, on trouve des Jésus très blonds, aux yeux bleus, alors qu'on nous dit qu'en Terre Sainte, à l'époque, ils avaient la peau plutôt bronzée, ils étaient plutôt bruns, etc. Mais moi, je trouve que c'est une diversité magnifique. Moi, j'ai voulu recoller à une forme de réalisme, parce qu'il me plaît en tant qu'agnostique de venir, au plus près de la réalité du message, pour montrer qu'il n'y a pas besoin de l'achalander de petits ornements, pour montrer la beauté du message. En tant qu'agnostique, j'ai pleuré à la parabole du fils prodigue. Voilà. Quand je la lis, quand je l'écoute, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Les images de Christ me portent. Et je n'ai pas besoin de venir les orner. Je comprends qu'on le fasse, je comprends ce besoin-là, mais ce n'est pas ma manière de fonctionner. Et quelque part, je mets le sacré dans un monde plus réel, plus réaliste.
Et puis, dans votre chemin de croix, au-delà de la souffrance, de la difficulté, des obstacles, il y a la joie. Vous avez accepté d'aller jusqu'au bout de la foi de la résurrection,
oui,
la résurrection.
Absolument. Bon, pour moi, le christianisme, moins que la résurrection, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire, nous sommes matière, et comme nous sommes matière, nous sommes faibles. Jésus, par exemple, le polyptyque avec le Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée du Saint-Esprit qui descend, ou du Fils de Dieu, qui s'incarne dans le cœur fait de matière d'un homme, pas le cœur symbolique. Et ce cœur qu'on blesse, qu'on pique avec une dague, et qu'on tue. Et ce cœur fait que cette position de Dieu n'est plus transcendante, au-dessus, extérieure. Dieu est vraiment dans une idée intérieure au monde des hommes, au monde de la matière. Moi, je trouve que ça réhabilite, à mes yeux, l'idée de la foi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est moins dans une idée de magie qui, à des moments, la science peut faire fuir, parce qu'on se dit la science peut presque tout expliquer, etc. C'est pas une bonne raison pour moi. La bonne raison, c'est que symboliquement, ce Dieu est incarnation, il est dans la matière. Et donc, j'ai voulu le traiter comme ça. D'ailleurs, au moment où j'ai créé ce chemin de croix, j'étais en passe de devenir papa, ça me travaillait beaucoup, ma compagne était enceinte, et j'ai donc créé ce chemin de croix vraiment dans la matière, puisque je l'ai créé comme un accouchement. Vous allez trouver Jésus au Mont des Oliviers, à Gethsémani, dans la première station, vu de haut, perdu dans ce bleu qui caractérise le fond de tous mes tableaux, puisqu'il n'y a pas de décor, les personnages sont directement dans le décor, dans un bleu, et Jésus est vu de haut dans une position fœtale, exactement comme dans le ventre de sa mère. Au fur et à mesure des stations, il va souffrir les douleurs de l'enfantement. Sa mère, Marie, va souffrir de le voir torturé. Il va être torturé physiquement, abandonné par son institution religieuse, abandonné l'administration romaine qui dirige. Ses amis vont le renier, un autre va le trahir. Et à la fin, cette mise au tombeau, c'est moins l'entrée vers la mort qu'une renaissance. Cette renaissance qui n'est pas pour moi une résurrection, là on parle de symbole, hein. C'est la mort de Jésus de Nazareth et la naissance de Jésus-Christ.
Si vous le voulez bien, Philippe Pujol, nous marquons une pause dans cette émission. Juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, vous qui êtes l'auteur, donc l'artiste qui avait accompli ce chemin de croix dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes et ce polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur, justement. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Philippe Pujol. Philippe Pujol, vous êtes sorti de votre atelier, vous en sortez souvent quand même, j'exagère un peu en disant cela, atelier situé à Bagnères-de-Bigorre, dans cette magnifique vallée du Haut-Adour qui mène à la vallée de Campan.
La plus belle vallée.
La plus belle des vallées, alors là c'est vous qui le dites et c'est sans doute vrai pour ceux qui la connaissent et qui y sont nés. D'ailleurs, votre grand-père, je crois, était berger dans cette vallée.
Absolument, et nos troupeaux sont encore en estive dans ces vallées.
Vous êtes artiste et on vous a invité parce qu'on avait envie de comprendre comment vous avez réalisé ce chemin de croix qui dorénavant permet la méditation à tous ceux qui entrent dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes et puis ce polyptyque dédié au Sacré-Cœur qui est dans cette église. Vous nous avez dit combien finalement ça vous fait vous-même bouger hein, de faire un chemin de croix. Vous avez dû vous replonger dans les évangiles, retravailler et vous appuyer sur l'expérience proposée par Jean-Paul de lui-même en 1991 qui fait ce qu'on appelle un chemin de croix évangélique.
Absolument.
Et vous repartez de là et vous nous proposez ce qu'on peut voir dorénavant dans cette église du Sacré-Cœur de Lourdes. Le polyptyque dans le cœur est dédié au Sacré-Cœur. À tout le moins, c'est le minimum qu'on puisse faire pour cette église.
Absolument.
Qui s'appelle l'église du Sacré-Cœur de Lourdes. Comment avez-vous travaillé pour aller offrir là aussi la pédagogie nécessaire à ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur ?
Alors la première chose, moi je suis un artiste, donc je fonctionne ma pensée fonctionne de manière visuelle. Et j'ai voulu continuer à développer cette idée de ce bleu très présent qui, il me semble, s'il traduit dans la passion ce bleu, une forme de violence d'aujourd'hui, une violence pop, on pourra en parler, mais Il incarne surtout l'esprit. Ce bleu, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est un bleu irréel qu'on ne va pas trouver dans la nature, un bleu mer du Sud, un bleu Caraïbe, comme ça. Et en l'opposant à la matière, c'est-à-dire à la carnation, aux couleurs que j'utilise pour peindre la carnation dans les personnages, les ocres, ces couleurs sont tirées de pigments qui sont ramassés dans les montagnes et moulus. Donc, c'est vraiment la matière terre. En opposant cette matière terre à ce bleu, j'oppose la matière et l'esprit, bien sûr, où je les mets en résonance. De la même manière, le cœur était pris des reflets des vitraux qui le surplombent. Au gré de la journée, les vitraux font tourner la lumière, comme ça, sur les panneaux, et viennent refléter les petits carrés. Ces petits carrés qui rejoignent ma façon de représenter dans d'autres œuvres les choses que je travaille pour un peu déconstruire la réalité. Et il m'a semblé bien de venir mettre des carrés comme ça de lumière partout dans mon tableau pour qu'on confonde et que le spectateur, s'il vient l'après-midi par beau temps, qu'il se dise « Mais attends, est-ce que ces carrés sont peints sur les tableaux ou est-ce qu'ils sont le reflet des vitraux qui viennent dessus ?» Et en flouant comme ça sa perception du réel, eh bien, je balaye la frontière entre le spirituel et le matériel. Je me demande si ces carrés sont faits de lumière ou si c'est moi qui les ai peints. Et en flouant ça, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail.
Vous avez une démarche très figurative, donc les personnages sont représentés vraiment comme des personnages bien incarnés, pour reprendre votre mot. Et vous êtes aussi allé chercher des visages de l'histoire de l'Église qui sont édifiants, magnifiques. Alors on pense bien sûr à Saint François de Sales, par exemple, mais à d'autres, hein, Saint Jean Eudes, Jeanne de Chantal, qui, avec François de Sales, hein, a beaucoup œuvré dans la continuité, justement, de la pensée de Saint François de Sales. Et vous êtes même allé, je crois, à Paray-le-Monial.
Oui, absolument. J'ai pris une année, quand la commande est arrivée, j'ai pris une année d'études. Donc, j'ai voyagé en lisant les grands textes, en lisant Sainte Marguerite Marie à la coque. Non seulement le livre écrit sur elle, mais aussi les pensées qu'elle a écrites pour les novices qui m'ont paru très éclairante, Saint Jean Eudes, Saint Maximilien Kolb, effectivement Saint François de Sales, et aussi
le Sacré-Cœur de Montmartre.
À Montmartre, Alexandre le Gentil, Réau de Fleury, etc. Bon, c'était des lectures passionnantes pour me faire une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur pour les gens. Donc j'ai rencontré des sœurs à Paray-le-Monial. Je me souviens avec émotion d'une sœur un peu âgée qui a passé 30 ans dans le couvent et qui m'a parlé avec passion de Marguerite Marie. Et tout ça m'a forgé une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur. Et vraiment, l'idée d'oratoire dans le cœur est venue me chercher, moi, qui étudie la pensée, les formes de rationalité, cette idée d'oratoire dans le cœur qui a guidé, qui a été un fil rouge dans la réalisation des panneaux du Polyptyque.
Tout de même, on sent bien à vos mots que cette expérience, forcément, elle vous a fait bouger, elle vous a fait vous-même plus que découvrir, non ?
Bien sûr.
Vous réinterrogez, sans doute.
Ah, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait mes communions, ma mère est très croyante. J'ai toujours été, dans cette interrogation. Je suis un peu dans les Trois Mousquetaires, je suis un peu Aramis, celui qui part au combat. Mais ses amis, s'ils le laissent tranquille 5 minutes, il part écrire un mémoire dans un couvent. Et donc moi, j'ai ce côté monacal et cette appétence, évidemment, pour le sacré et le spirituel. Mais je tâche de raison garder pour la représentation dans mon travail. Mais évidemment, je suis touché dans mon cœur.
Votre maman dont vous parliez à l'instant, c'est Monique Pujot-Monfrand.
Absolument.
Qui est une artiste. Qui est une artiste admirable.
Oui.
Magnifique. Votre papa était dans l'art aussi ?
Non, pas du tout. Mon papa était douanier pour gagner sa vie et berger de cœur. C'est-à-dire qu'il quittait le travail, il enlevait vite son pantalon, il changeait de pantalon et il partait dans la montagne aider à surveiller les moutons, à faire le foin pendant l'été.
C'est ce qui a construit le petit Philippe, à 16 ans, quitte l'école,
oui.
Est en rébellion.
Absolument.
Refuse tout ce qu'on lui impose et n'est pas compris, et est en rupture. Comment oui. L'enfant de 16 ans, le jeune de 16 ans, qui est à la rupture et qui quitte tout ça, tout cet univers conventionnel, revient par l'art ?
Ce qu'il faut comprendre en une minute, c'est que quand je quittais l'école et que je faisais l'école buissonnière avant de prendre la décision de quitter complètement, c'était pour aller à la bibliothèque, me renseigner sur les cathares, sur la civilisation romaine, la civilisation grecque. Et je comprenais pas d'avoir des bananes, d'avoir 3 sur 20 en histoire, simplement parce que le prof n'aimait pas que je dessine, au lieu de l'écouter les yeux fixés. Or, je lui disais, quand je vous écoute en vous regardant dans les yeux, mon esprit divague. Si je veux me concentrer sur ce que vous dites, je dois dessiner. Et là, je retiendrai votre cours par cœur.
Et donc, vous étiez détesté des profs, de certains profs.
Détesté, voilà. J'ai eu beaucoup de mal.
Vous agaciez.
Voilà, j'agaçais. Donc, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté la casse. Et là, j'ai rencontré des amis musiciens qui eux-mêmes faisaient des études de sciences et de philosophie. Et leur conversation m'a paru tellement stimulante que je me suis dit, je dois reprendre le chemin de l'école. Et en le faisant avec ce but-là, aller faire de la philosophie, eh bien à ce moment-là, j'ai repris l'école et là, ça a très bien marché. Je suis devenu bon élève. Les profs ont accepté à ce moment-là comme j'étais, puisque je leur disais, j'ai su trouver les mots pour leur expliquer. Et donc là, j'ai passé mon bac et j'ai intégré l'université de philosophie jusqu'à obtenir un master.
C'est un magnifique message d'espoir quand même pour ceux qui nous écoutent, qui disent bon bah où mon fils, mon petit-fils, mes proches sont en difficulté scolaire ou oui. en difficulté oui. pour entrer dans le carcan.
Oui, il faut pas
vous
le lâcher.
Vous n'y étiez pas, vous n'y non. arriviez pas.
Voilà, et il faut lui dire bon mais sors, mais par contre on discute, je te laisse pas faire n'importe quoi. Bon moi j'ai fait du skateboard, j'ai fait la fête comme tous les jeunes, hein, mais je l'ai fait avec ce but de reprendre, j'ai repris et j'ai découvert. Effectivement, la peinture avec un grand P, l'art avec un grand A, c'est-à-dire les préoccupations de Picasso, de Mondrian, de Matisse, de Rubens ou de Raphaël, quand j'ai eu seulement 18 ans. Et par contre, je n'ai plus pu quitter cet univers.
Et vous pouvez en vivre, Philippe Pujot, de cet univers ?
J'essaye. J'ai une petite entreprise à côté. Je fabrique des toiles pour les autres artistes. Des toiles blanches que j'expédie, j'ai une petite menuiserie et donc je fabrique des châssis. À la base, je fabriquais ces châssis pour avoir des toiles moins chères parce que ça coûte très cher. Et donc comme ça, j'ai des clients à qui je vends des toiles.
Et donc vous réussissez à vous partager entre la nécessité de vous exprimer librement vous-même votre art hein, sur ces toiles ou bien de les envoyer, de les fabriquer pour d'autres.
Si j'avais dans un monde idéal, j'aurais quelqu'un qui fabriquerait les toiles et moi je ferais que peindre évidemment. J'aimerais avoir des assistants comme Rubens à son époque.
Mais comment on vit d'art aujourd'hui? On trouve les moyens d'avoir des mécènes, des commandes? Des galeries.
Il faut trouver des gens qui croient en nous, il faut se battre et travailler tout le temps. Voilà. Si on reste assis, personne ne viendra vous dire vous êtes un génie, je vous prends tout. Il faut se battre, il faut peindre, il faut s'intéresser au sujet. Et à force de discuter avec des gens, de rencontrer des gens qui vont voir que vous travaillez sérieusement, alors vous êtes pris au sérieux. Et une œuvre se vend, quelqu'un met le nez dessus et dit « Ah mais c'est vraiment bien en fait, c'est intéressant, je vais lui donner une chance un peu plus grande ». Et comme ça, au fur et à mesure, on se retrouve à montrer ce qu'on peut faire.
Et chez vous, Philippe Pujot, toute œuvre est une pensée, c'est ce qui frappe. Et d'ailleurs, c'est ce qui irrigue votre travail, votre démarche d'artiste.
Oui, absolument. Le prétexte, une œuvre, c'est une représentation. Une œuvre, c'est avant tout... Alors, le spectateur, il va dire le coup de cœur. Il va dire, moi, j'ai acheté cette œuvre parce que j'ai le coup de cœur.
Il est dans l'émotion.
Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais par contre, je pense qu'une œuvre, c'est une puissance évocatrice. Vous écoutez un morceau de Mozart, vous vous en souvenez par cœur. Vous regardez un tableau qui a une grande puissance évocatrice... Il va vous frapper. Mais le sujet peut être bête comme chou à l'intérieur, ou vulgaire, et donc vous l'oublierez, ça sera gâché. Donc il faut que le sujet soit intéressant. Ça me donne le prétexte de pouvoir continuer l'étude, étudier les grands textes, la philosophie, les textes religieux.
Et vous les replacez dans vos œuvres.
Exactement, c'est le sujet de mes œuvres. En ce moment, je travaille des œuvres spirituelles et des œuvres sur Pythagore, par exemple.
Eh ben c'est magnifique, on passera encore beaucoup de temps avec vous, Philippe Pujot. En tout cas, on invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre à l'église du Sacré-Cœur de Lourdes. C'est une façon de découvrir ce que vous faites, une façon, parce qu'il y en a d'autres, hein, puisque vous êtes sans doute dans des galeries, chez des collectionneurs ou autres lieux d'exposition. Votre atelier est à Bagnères-de-Bigorre, mais là, le Sacré-Cœur s'est ouvert à vous pour à la fois ce polyptyque dans le cœur, qui fait la pédagogie de la dévotion du Sacré-Cœur.
Absolument.
Et puis ce chemin de croix, oui. 14 stations.
Avec que des enfants du pays comme figurants.
Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour votre invitation.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Radio Présence à Millau 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
De plus en plus internationales, les guerres en cours en Iran et en Russie se touchent. Après